l'Éternel se plaît lui-même à dire mon serviteur Caleb. Il a dit à Josué, mon serviteur Moïse. Josué est appelé le serviteur de l'Éternel. Dans Nombre 14, l'Éternel dira, mais mon serviteur Caleb. Chapitre 14 du livre des Nombres, verset 24. Parce qu'il a été animé d'un autre esprit. C'est un exemple en effet très significatif, très encourageant, d'un combattant valeureux. Un homme qui va surmonter tous les obstacles et pendant longtemps, et à la fin d'une longue carrière, se montrera encore verdoyant dans la maison de l'Éternel, portant de beaux fruits, des fruits à la gloire de Dieu, dans une vie qui lui est entièrement consacrée. Caleb, dont le nom voudrait dire, mais nous n'affirmons rien, mais nous répétons ce que nous avons pu lire sous la plume de chers serviteurs de Dieu, dont le nom voudrait dire plein de cœur. Quoi qu'il en soit, remarquons son origine. C'est donc Caleb, le Jéphunné, fils de Jéphunné, le Kénizien. Or, si nous nous rapportons au livre de la Genèse, les Kénisiens étaient donc des peuplades cananéennes qui devaient disparaître de la scène. N'avons-nous pas déjà dans la mention, la qualification de Caleb, le Kénizien, quelque chose de bien précieux touchant la grâce de Dieu? Rab, la Moabite. Caleb, le Kénizien. Ruth, la Moabite. Rab, la prostituée. Que de noms déjà dans l'Ancien Testament on pourrait présenter comme illustrant ce qu'allait la grâce de Dieu lorsqu'elle allait déborder par-dessus tous les obstacles et qu'à partir de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, elle allait pouvoir s'étendre à tous les hommes sans distinction. Dieu ayant renfermé tous les hommes dans la désobéissance afin de faire miséricorde à tous. Quelles que soient leurs origines, la couleur de leur peau, tous ensemble objet de la grâce de Dieu. Le fils de Jéphunné, Caleb, est déjà un exemple saisissant de ce qu'allait être cette grâce de Dieu. Tirant cet homme, nous ne savons pas par quel moyen, du milieu d'une population qui devait passer par le jugement et faisant de lui un monument de la grâce. Trouvons son histoire liée à celle du peuple de Dieu, et il va devenir, au milieu du peuple de Dieu, un prince dans une tribu, et qui ne manque pas de renom. Caleb, fils de Jéphunné, se trouve associé avec Josué dans le livre des Nombres, au chapitre 11, quand il s'agit de l'affaire des espions. Et si on lit attentivement, si on lit attentivement, on peut peut-être voir que Caleb, même avant Josué, a affirmé que Dieu était bien capable de défaire tous les ennemis, si impressionnant qu'ils soient, si grands qu'ils soient, si puissants qu'ils soient. Quelle est la différence entre Caleb et les 10 espions? Josué va épouser la vue de Caleb sans tarder, peut-être après une nuit. Et quoi qu'il en soit, Caleb, dans cette circonstance, a le premier pas avec Josué. Quelle est la différence entre ces deux hommes et les 10 espions qui, eux, ne décrivent pas le pays sans doute, affirment qu'il est bien ce que l'Éternel a dit, pays ruisselant de lait et de miel, mais ils affirment l'incapacité d'Israël d'aller combattre les ennemis qui sont à l'intérieur de ses frontières, étant donné la force de ses ennemis. Est-ce que Caleb ne voit pas clair? Sont-ils aveugles? Pas du tout. Mais on l'a dit, ces deux hommes, Caleb lui-même, en premier lieu, entre les ennemis et Israël, il a placé l'Éternel. Les ennemis ne sont rien pour lui. Serait-il encore 10 fois plus grand, 100 fois plus nombreux, du moment que l'Éternel est entre son peuple et les ennemis, Caleb a l'assurance que la victoire elle est remportée d'avance. Parce que c'est l'Éternel qui combat les ennemis de son peuple, et qui pourrait subsister, qui pourrait combattre contre l'Éternel? Le Dieu des cieux, le Seigneur des seigneurs, grand, puissant en force, et auquel personne ne peut résister. Et donc le secret de Caleb, il a placé l'Éternel entre le peuple d'Israël et les ennemis. Les espions n'ont vu que les ennemis, impressionnés qu'ils ont été par leur stature, par les armes dont ils disposaient, ils se sont dit, nous sommes vaincus d'avance. Effectivement, il n'y a rien de plus faible que le peuple de Dieu si Dieu n'est pas ou n'est plus avec lui. Sans vouloir prolonger cette petite introduction sur Caleb, quand nous lisons dans le chapitre 14 de Josué ici, il y a donc 45 ans que nous avons quitté l'Égypte, et cet homme peut dire qu'il est encore fort, comme il l'était au commencement, pour la guerre, pour sortir et pour entrer, pour combattre et pour servir. C'est un combattant et en même temps un serviteur. Et Dieu se plaira, puisque entrer et sortir, ou sortir et entrer, c'est bien l'expression du service. Et Dieu va se complaire à dire de Caleb, Caleb est mon serviteur, comme Moïse, comme Josué. Étant donné les affections de Caleb, étant donné l'assurance que Caleb éprouve et manifeste dans les promesses que Dieu a faites, Caleb se distingue par la foi opérante par l'amour, s'appuyant sur Dieu, sur les promesses qu'il a faites qui sont immuables. Encore un mot, Caleb a donc vu rapporter du pays de Canaan des choses extraordinaires. La grappe d'Escol, il a vu des champs, des vignobles, il a vu le pays ruisselant de lait et de miel. Maintenant que 45 ans se sont passés, il faut que chacun reçoive son héritage. Et cet homme va se présenter devant Josué. Que va-t-il demander? Étant donné le rang dans lequel il est établi, il aurait pu demander à son fidèle compagnon depuis le commencement, car ils sont les deux seulement qui ont franchi le Jourdain. Tous les autres sont morts, nous le savons bien. Il aurait pu demander à Josué la meilleure partie du pays. Que va-t-il demander? Chose extraordinaire, il va demander à Hébron une caverne dans laquelle il y a seulement quelques ossements. C'est un choix bien étrange. Pourquoi ne demande-t-il pas des champs qui rapportent énormément, des vignobles qui sont productifs, bien exposés? Pourquoi ne demande-t-il pas Escol ou quelque chose de semblable? Cet homme, semble-t-il, a bien compris qu'avant de jouir du repos, de s'asseoir chacun sous sa vigne et sous son figuier, il y avait encore des ennemis à vaincre. Et ces ennemis à vaincre, précisément, on en trouve la présence à Hébron, lieu de mort, mais lieu de présence des ennemis dont nous avons la mention dans ce chapitre 14. Arba était le grand homme parmi les Anakins. Dire encore seulement quelques mots sur ce grand homme et sur ses trois fils. En relation avec Hébron, où se trouve donc le siège de la puissance des ennemis remarquables des Anakins, et Arba, qui est le grand homme géant, avec ses trois fils dont les noms sont cités, ne trouvons-nous pas une instruction déjà remarquable dans le fait d'Abraham, qui a été cité souvent au cours de cette journée, et qui précisément dans le chapitre 13 du livre de la Genèse, quand l'Éternel lui donne le pays qu'il a choisi pour lui. Abraham n'a pas choisi, c'est l'autre le fera à son détriment. Mais Abraham, s'attendant à l'Éternel, Dieu lui donne le pays en long et en large, et il le lui montre. Et dès que l'Éternel lui a fait cette promesse, fin du chapitre 13 du livre de la Genèse, comment expliquer le verset 18? Tout de suite, et Abraham leva ses tentes et vint habiter auprès des chênes de Mamré qui sont à Hébron. Et il partit dans l'autel à l'Éternel. Il vient donc adorer l'Éternel en relation avec la promesse qu'il lui a faite, le don qu'il vient de faire de cette terre de Canaan, qui désormais lui appartient, quels que soient les efforts des ennemis, quelles que soient les entreprises du diable. Cette terre, Dieu l'a donnée, non pas pour un temps, mais pour toujours, pour tous les siècles. Il l'a donnée à Abraham et à sa descendance. Pourquoi Abraham vient-il établir ses tentes à Hébron? Nous dirions aujourd'hui, pourquoi Abraham déménage-t-il, quitte la région où il se trouve et vient s'établir à Hébron? Or, nous savons qu'à Hébron, il y avait déjà des géants au temps d'Abraham. Ils ne sont pas nouveaux. Et précisément, dans Nombre 11, que nous avons cité proprement tout à l'heure, il y a quelque chose qui nous est dit d'Hébron qui mérite d'être retenu. Et c'est peut-être un petit secret par lequel nous apprenons. Mais décidément, c'est au chapitre 13, je m'excuse beaucoup, c'est au chapitre 13 que nous trouvons cette petite mention d'Hébron, où nous lisons que Hébron, verset 23 de ce chapitre 13 des Nombres, avait été bâti 7 ans avant son d'Égypte. Pourquoi trouvons-nous ce détail aussi lié à Hébron? Hébron, lieu où Abraham vient établir ses tentes, poser ses tentes, établir l'autel. Au moment où les espions pénètrent dans le pays, l'Éternel se fait à nous dire, eh bien, à Hébron, au cœur du pays de la promesse, au centre de la tribu royale, de la tribu de Juda, Hébron se trouve là, et Dieu nous dit, elle a été bâtie 7 ans avant de se rendre d'Égypte. Pourquoi cette comparaison? Nous cherchons dans la parole de Dieu, nous allons voir que Soran ou Tanis, dans la haute Égypte, nous trouvons, dans la basse Égypte, nous trouvons cela au psaume 78, et la région de Goshen où les fils d'Israël ont assisté au déploiement de la puissance de Dieu par la main de Moïse. C'est là que les grands actes de la puissance de Dieu se sont déployés. Psaume 78, on va rapidement voir ce verset. Et nous comprendrons ainsi la signification de Hébron et du choix qu'a fait cet homme de Dieu. Psaume 78. Nous avons au verset 12. Et l'Éternel fit des merveilles devant leur père, dans le pays d'Égypte, dans la campagne de Tson. Vous voyez, à la note Tanis, dans la basse Égypte. C'est une des plus anciennes villes du monde. Et nous l'avons encore répété dans ce même psaume, au verset 43. Lorsqu'il mit ses signes en Égypte et ses prodiges dans les campagnes de Tson. Tson. Sartanis est une des plus anciennes villes du monde. Et c'est là que Dieu a manifesté sa puissance par la main de Moïse pour délivrer son peuple Israël. Et pourquoi Dieu nous dit-il? Eh bien, vous voyez, Hébron, elle a été bâtie 7 ans avant Tanis ou Tson, qui est déjà une des plus anciennes villes connues du monde. Pourquoi cette relation? Semble-t-il pas que Dieu veut nous dire, vous voyez, le pharaon qui tenait Israël captif, après tout, n'était qu'un agent de la puissance qui siège à Hébron. 7 ans avant Tson, c'est-à-dire bien avant que le peuple de Dieu tombe en captivité, eh bien, le siège de la puissance de l'ennemi, dont Pharaon est un exemple ou un représentant, le siège de cette puissance, c'est à Hébron qu'elle se trouve. Et Abraham, notre père à tous, le père de la foi, a bien compris, en venant à Hébron, il posait un acte de foi et qu'en fait il disait à Dieu, eh bien ce pays, j'en prends possession et je viens m'établir à Hébron, certain qu'un jour la semence de la femme que tu as promise viendra et détruira la puissance de celui qui siège à Hébron et qui tient tous les hommes captifs. Je me base sur cette promesse et je prends un acompte sur cette promesse en venant m'établir à Hébron. Voilà maintenant cet homme de foi Caleb, 450 ans plus tard, dans la même disposition d'esprit que le père de la nation, qu'Abraham, lui, il demande à Josué, « Josué, je viens maintenant te dire, il faut faire nos comptes. Et Dieu m'a promis de me donner ce que je demandais dans le pays. Que demandes-tu, Caleb? Eh bien, je demande une caverne. Je demande une caverne dans laquelle il y a des ossements. » Dans laquelle Abraham a enterré Sarah, dans laquelle Isaac, son épouse, Jacob ont été enterrés. Tous nos ancêtres, hommes de foi, se sont fait enterrer à Hébron, là où il y a le siège de la puissance, mais certain que Dieu un jour interviendrait en résurrection, après avoir balayé toute la puissance du diable. Abraham a cru Dieu, celui qui fait vivre les morts, qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est la même fois chez Caleb. Et il dit à Josué, donne-moi Hébron. Que va faire Josué? Il semble que nous voyons ce grand chef regarder son vieux compagnon et être rempli d'admiration pour lui. Pourquoi, intérieurement, se dit-il, ne me demande-t-il pas la plus belle partie du pays? Il y a droit. C'est à lui qu'elle appartient. Et il vient me demander Hébron. La caverne de Marpella, Quel acte de foi. Quel triomphe de la foi. Cet homme a compris que ce n'est pas encore le moment du repos, d'avoir des vignes et des champs. Mais il faut d'abord se battre et vaincre la puissance de l'ennemi. Qui est cet ennemi pour nous? Arba, le géant, celui devant qui tout homme doit s'incliner, vaincu d'avance par cet agent du diable, il en est le représentant. Eh bien, c'est le diable, évidemment. Et ses trois fils. Eh bien, on a dit que Jean nous donne le nom des trois fils du géant. C'est Jean, dans sa première épître, qui nous donne les trois fils du géant. Ceux qui dominent le monde, qui asservissent le monde, ceux devant lesquels le monde entier doit se courber, c'est-à-dire tous les hommes. Parce que c'est ce dont, c'est ce en quoi nous nous trouvons tous moralement parlant, ce dont nous sommes pétris, c'est-à-dire ce que la chair en nous est, ce qu'elle est dans ses dispositions, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Voilà les trois enfants du géant. Ce sont ceux qui asservissent le monde, mais dont nous sommes délivrés, comme Caleb, homme de foi, qui va demander cette forteresse. Et il dira, dans ce chapitre 14, dernier mot de Josué, ce n'est pas une expression de doute quant à la puissance de Dieu. Il semble bien que ce soit une expression de confiance et de dépendance. Quand il dit au verset 12, « Peut-être, dit-il, que l'Éternel sera avec moi et je les déposséderai. » Autrement dit, je compte sur la puissance de Dieu car je n'ai aucune force en moi. Le peut-être n'est pas un peut-être de doute ou d'incrédulité. C'est le peut-être de la dépendance. Il faut que Dieu soit avec moi pour que je remporte la victoire. Comme nous l'avons assez vu aujourd'hui, nous savons bien que nous n'avons aucune force en nous, mais que c'est par Christ que nous sommes plus que vainqueurs. Les trois fils du géant, convoitise des yeux, convoitise de la chair, orgueil de la vie.
Le peut-être de Caleb nous rappelle celui de Jonathan.
Dans le chapitre 14 du premier livre de Samuel, n'est-ce pas? Quand Jonathan monte avec ses mains et ses pieds vers ce poste de Philistin, et que parlant à son jeune homme qui portait ses armes, il lui dit au verset 6, viens et passons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être que l'Éternel opérera pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver avec beaucoup ou avec peu de gens. Parfois, on peut dire, n'attend qu'un secours du monde, on le voit particulièrement pour Jonathan, elle a le secret de Dieu.
Dans le chapitre 13 du livre des Nombres, où nous avons le rapport des espions, des 10 hommes, verset 34 est instructif. Voyons comment raisonne l'homme. Nous y avons vu les géants, fils d'Anak, qui est de la race des géants, insistant sur cette puissance qui est devant eux. Mais on l'a dit tout à l'heure, il dit que la puissance de Dieu est là. Dans Amos aussi, les questions de ces Amoréens dont la taille était comme des chaînes, Amos 2, verset 9. Intéressant de voir ce que dit là des Amoréens. Amos 2, verset 9. Mais moi, c'est Dieu qui parle, mais moi j'ai détruit devant eux l'Amoréen, dont la taille était comme la hauteur des cèdres, et qui était fort comme les chênes. Et j'ai détruit son fruit en haut et ses racines en bas. Et moi, je vous ai fait monter du pays d'Égypte. Dieu ne sous-estime jamais la puissance de l'ennemi. Le Seigneur, quand il parle à ses disciples, ne leur dit pas, le monde n'est pas si fort que cela. Il leur dit au contraire, Jean 16, verset 33, vous aurez de la persécution dans le monde. Mais, ayez bon courage, moi j'ai vaincu. Le monde est fort, mais il a trouvé son maître. Plus fort que lui. Dieu jamais ne sous-estime les difficultés Il ne nous a jamais promis que nous n'en rencontrerions pas, étant chrétiens, mais il nous donne la manière de les traverser. Il nous donne les armes. Il nous donne son secours. Deuxième chose que nous apprenons par ce verset 34 de Nombre 13, c'est que notre tendance est toujours de regarder soit à nous-mêmes, soit à ce que les autres pensent de nous. Et voilà ce qui nous affaiblit. Nous regardons à nous-mêmes. Alors, nous étions à nos yeux comme des sauterelles. Qu'avaient-ils besoin de se comparer eux-mêmes à des sauterelles? Ils réalisaient leur propre faiblesse, sans doute, mais sans se tourner vers le Dieu puissant. Nous étions de même à leurs yeux. Ça, c'est tout à fait subjectif, n'est-ce pas? Nous étions de même à leurs yeux. Nous sommes tellement occupés de ce que les autres pensent de nous, et c'est une cause d'affaiblissement. Pensons à nous, à notre absence de ressources. Nous lamentons sur notre insuffisance. Mais ce n'est pas du tout cela, le « quand je suis faible, alors je suis fort ». Réaliser tout le secours du Seigneur, toute sa puissance à notre disposition. Et voilà comment résonnent ces 10 espions, en contraste avec Caleb et puis avec Josué. Les géants sont formidables, nous sommes, nous, comme des sauterelles à nos propres yeux, et les autres nous considèrent ainsi.
Caleb représentait la tribu de Juda dans les espions qui ont été envoyés pour découvrir le pays. Juda est la tribu royale. Ceux de la tribu de Juda ont de l'énergie. L'exemple le plus merveilleux, c'est Christ qui est le lion qui est de la tribu de Juda. Et Caleb était certainement, à titre naturel, un homme exceptionnellement énergique. Et on trouve un de ses descendants dans lequel cette énergie a, au fond, on pourrait se dire, divergé. C'est Nabal. Il était dur et méchant, et il était de la race de Caleb. De sorte que l'énergie naturelle ne peut être à la disposition de Dieu pour combattre les combats du peuple de Dieu que dans la mesure où, d'abord, nous sommes brisés. Faute de quoi, en fait, l'énergie n'est pas à la disposition de Dieu. L'énergie ira contre. Un exemple très beau, c'est celui de Paul, qui certainement, à titre personnel, était naturel, était un homme exceptionnellement énergique. On ne trouve peut-être dans son ministère qu'une fois où cette énergie est sortie de sa place, lorsqu'il s'est emporté contre le souverain sacrificateur, lorsqu'il avait commandé de le frapper. Et autrement, quel merveilleux exemple Paul nous montre, nous donne, d'un homme dont le ressort naturel a été complètement brisé et dans lequel l'énergie a été à la disposition du maître. Caleb a été cet homme énergique, mais son énergie était à la disposition de sa foi. Montons hardiment, car nous sommes capables de le faire. Voilà ce qu'il dit à 40 ans et à 85 ans, telle que ma force était autrefois, telle elle est maintenant, pour entrer et pour sortir. Voilà ce que la grâce de Dieu avait produit, voilà ce que le bel exemple de l'énergie de la foi. Mais la chose remarquable, c'est que la pierre de touche, lorsque les espions sont venus, c'était de savoir si on allait ou non pouvoir remporter la victoire contre les descendants des Anakim, contre les géants qui habitaient ce pays. Les 10 espions ont dit que personne n'était capable de le faire. Caleb et Josué ont dit au contraire qu'avec les moyens que Dieu donnerait, on pouvait le faire. Mais la chose remarquable, c'est qu'au point où nous sommes arrivés ici dans le livre de Josué, eh bien Dieu, pour ainsi dire, a ramené son serviteur au pied du mur. Il l'a pris selon sa propre parole. Cela correspondait bien à l'exercice de la foi de Caleb de demander pour lui cette montagne et Hébron, le lieu de la mort. Mais c'est justement parce que Caleb avait dit « Nous sommes bien capables de le faire » devant les 10 autres, que Dieu a permis que Josué lui donne en héritage Hébron, et il a fallu que Caleb maintenant conquiert cette montagne qui lui était donnée en héritage. Les choses sont à nous, mais il faut l'énergie de la foi pour les conquérir. Autrement, nous n'en aurons pas la possession présente, effective, et la jouissance par la foi.
Chose, j'espère que de dire ce qui est dit, si le pays que ton pied a foulé n'est pas à toi pour héritage à tes fils, fouler avec notre pied, ça signifie qu'il y a eu un effort là-bas avec cette énergie de la foi dont il est parlé. Sans doute pourrions décrire les vérités qui sont présentées par la parole de Dieu. Pourrions peut-être en parler. Mais c'est tout autre chose que, quelque sorte, les avoir vécues, on peut dire, expérimentalement, en avoir senti, si on peut dire, ces immenses richesses de notre héritage, de la gloire de notre héritage. C'est ce que le Seigneur désire pour chacun des siens. Et cela avait été donné en principe au début du livre de Josué. Il a été dit, n'est-ce pas, tout lieu que foulera, verset 3 du chapitre 1er, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous l'ai donné, comme j'ai dit à Moïse. Et bien maintenant, on voit Caleb qui, on peut dire, s'empare de cela. Et sa vigueur n'était pas diminuée. 40 ans de désert, il avait, on peut dire, traversé des épreuves avec le peuple. Lui qui, pourtant, n'avait pas été infidèle. Mais Dieu avait veillé sur son serviteur. Et il y a en lui la même énergie, on peut dire, pour commencer. On voit vraiment la réalisation de cette promesse que Dieu fait, comme quoi jusqu'aux cheveux blancs, n'est-ce pas, il peut renouveler l'homme intérieur, et c'est cela qui compte. Il a appris dans la présence de Dieu. Alors d'un côté, notre œil évidemment peut embrasser un vaste horizon, alors que notre pied, lui, ne peut fouler qu'un tout petit, une toute petite partie, mais l'œil conduisant, on peut dire, le pied, eh bien nous sommes pas à pas conduit par la grâce de Dieu à entrer en possession, on peut dire pratiquement, de notre héritage. Et c'est ce qui compte. Le Seigneur nous garde d'être simplement de ceux qui ont beaucoup de vérité dans la tête, mais qui nous accorde en quelque sorte de les vivre dans la communion avec lui. C'est là ce qui est précieux à ses yeux.
Lire un passage dans Isaïe 40, qui appuie ce que nous considérons actuellement. Isaïe 40, verset 29. Alors, c'est l'Éternel, il donne la force à celui qui est là et augmente l'énergie à celui qui n'a pas de vigueur. Les jeunes gens seront là et se fatigueront. Et les jeunes hommes deviendront chancelants. Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leur force, ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles, ils courront et ne se fatigueront pas, ils marcheront et ne se lasseront pas, parce qu'ils sont en liaison avec la source de la puissance. Sinon, il y aura toujours un vieillissement. L'homme extérieur dépérit, de jour en jour. Mais l'homme intérieur sera renouvelé dans la puissance d'un homme. Et il n'y a pas d'affaiblissement, comme on a vu aussi, chacun le sait, à la fin de la vie de Moïse. Son œil n'était pas affaibli. Et il avait gardé une énergie que Dieu l'avait donnée, et qui était, on peut dire, extraordinaire, 120 ans. Alors, voilà, c'est un encouragement. Maintenant, on a dit aussi que Caleb a été très, très beau dans ses paroles à 40 ans. Est très énergique, certainement très sincère et conduit par la foi et par l'Esprit de Dieu. Mais quelquefois, ça peut arriver aussi de dire des belles paroles en toute sincérité, parce que nous sommes dans un bon moment. Et après, notre conduite dément ce que nous avons dit. De très belles phrases, puis voilà, au pied du mur, nous n'accomplissons pas ce que nous avons nous-mêmes prêché. L'apôtre Paul avait peur de ça quant à lui-même. Que je ne sois pas réprouvé à faire chez l'autre. Alors, il y a l'exemple donc, de Caleb, très bel exemple, 45 ans plus tard. Nous avons un autre exemple là qui me venu, c'est dans Esdras, tout simplement. Esdras, chapitre 8. Eh bien, après avoir dit au roi qu'il n'a pas besoin de renfort, que l'Éternel était suffisant pour les garder, eh bien, il y a eu un moment où j'ai oublié du mur. Et alors, dans Esdras 8, verset. Prévu par là-bas, verset 22, Esdras dit, sinon c'est pas Oui, mais c'est Esdras qui parle. Oui, alors il dit voilà le verset, j'avais honte de te demander au roi des forces et de la cavalerie pour nous aider en chemin contre les ennemis. Pourquoi avait-il honte? Car il avait fait des belles paroles. Nous avions parlé au roi disant la main de notre Dieu est en bien sur tous ceux qui le cherchent, et sa force et sa colère contre ceux qui l'abandonnent. Très beau, mais encore il fallait-il le démontrer par les actes. Très beau. Il a été victorieux. Il a été exaucé.
Dans le passage que vous lisez, dans nombre 14, un petit détail à la fin du verset 7, je lui rapporte de Josué 14, à la fin du verset 7, je lui rapportais la chose comme elle était dans mon cœur. C'était ce qui était dans son cœur. Il avait la confiance, il avait cette énergie, mais confiance en l'Éternel. Quand il dit sont bien capables de le faire, plus loin il dira l'Éternel est avec nous. C'était quelque chose qui était profondément en lui, la confiance en l'Éternel. Et puis un peu plus loin, je suivis pleinement, au verset 8, je suivis pleinement l'Éternel, mon Dieu. C'était son Dieu personnellement. Et il a conservé dans son cœur pendant ses 45 ans le souvenir des paroles que l'Éternel, la promesse que l'Éternel avait donné à Moïse et qui est rapporté dans Deutéronome, au premier chapitre, quand au verset 36, excepté Caleb, fils de Jéphuné, lui le verra, je lui donnerai à ses fils le pays où il a marché, ou alors en autre, qu'il a foulé, parce qu'il a pleinement suivi l'Éternel. Et ce qui était dans son cœur, l'Éternel était son Dieu et il y avait la confiance entière dans la parole de l'Éternel.
En fait, c'était la foi. Et si l'on garde le dernier paragraphe de Hébreux 12, c'est exactement là où nous sommes arrivés. C'est dans le pays que l'exercice de la foi s'opère pour justement subjuguer les armées des étrangers pour remporter la victoire. Et cela, indépendamment des forces humaines. Et à la fin, au début du chapitre 12, le secret qui correspond à ce que nous avons ici, suivre pleinement l'Éternel, son Dieu, le Dieu de Caleb, pour nous, c'est fixer les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi.
Alors pourquoi dans Hébreux 11, nous ne trouvons ni Joseph, ni Josué, ni Caleb, dans les hommes de foi? Est-ce qu'on peut donner la réponse?
Qui donnait cette explication. Josué est le type du chef de la foi. Caleb est le type du consommateur de la foi. Et si ces deux personnes, ces deux hommes se trouvaient dans la liste du chapitre 11, ils éclipseraient en soi peu celui que nous voyons au chapitre 12 comme le chef et le consommateur de la foi. De même que nous n'avons pas d'apôtre pour introduire cette épître aux Hébreux, parce que si nous avions la mention d'un apôtre, il éclipserait celui que nous avons à considérer au chapitre 3, considérer l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession.
Consommateur de la foi, parce qu'il a été jusqu'au bout.
Il n'a pas arrêté à mi-chemin, une foi qui a tenu bon pendant 45 ans et qui s'est manifestée au bon moment. Un moment où les forces humaines, selon le psaume 90, étaient arrivées à leur limite extrême, d'après les paroles de Moïse, homme de Dieu. Et bien à 85 ans, sa force est aussi grande parce que c'est la force de Dieu, ce n'est pas la sienne. Et là, il a consommé la foi, il a été jusqu'au bout.
Ici, nous voyons que Caleb peut dire au verset 8 du chapitre 14, « Moi, je suivis pleinement l'Éternel, mon Dieu. » Et la chose a été reçue par Moïse. Moïse peut dire, au verset 9, « Tu as pleinement suivi l'Éternel, mon Dieu. »
pouvez dire en commun ce Dieu fidèle. Et puis, ici, Josué va dire à Caleb, verset 14, hein, que il est dit du moins, Josué le bénit, verset 13, et donna Hébreu en héritage à Caleb. C'est pourquoi Hébreu appartient à l'héritage jusqu'à ce jour à Caleb, fils de Jephunné le Kenizien, parce qu'il avait pleinement suivi l'Éternel, le Dieu d'Israël. Mais on a plus encore dans le chapitre 1er du Deutéronome qui a été cité, n'est-ce pas, c'est l'Éternel lui-même qui dit clairement au chapitre 1er et au verset 36, excepté Caleb, fils de Jephunné, lui le verra, le pays. Je le lui donnerai, et à ses fils, le pays où il a marché, parce qu'il a pleinement suivi l'Éternel. C'est le sceau de Dieu, on peut dire, sur la foi de Caleb. Et c'est bien ce qui est important. L'apôtre pouvait dire, il m'importe pour peu d'être jugé par vous de jugement d'homme, de jour d'homme. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est à la fois, on peut dire, sérieux et plein de solennité, n'est-ce pas, nous serons pesés à une balance juste. Et si Dieu, en quelque sorte, reconnaît ce qui était dans le cœur de son serviteur.
L'expression si belle, pleinement suivre, c'est la plénitude des affections qui sont pour nous concentrées sur Christ. Et en Christ, parfaitement, cette expression de consommateur, consommation de la foi, qui est particulière à l'épître aux Hébreux, et dont nous trouvons dans la note du chapitre 2. Consommer, c'est rendre parfait, faire tout ce qui est nécessaire pour accomplir un office. Ça n'est pas user de la foi, mais c'est amener le chemin et la vie de la foi à sa plénitude. Cette plénitude, évidemment, est en Christ lui-même. Et cette place est pour nous comme objet de nos exercices pour que nous fassions des progrès. Dans la famille chrétienne, dans 1 Jean 2, les enfants de la famille de Dieu, de la famille céleste, ont en commun d'avoir leurs péchés pardonnés par le nom du Seigneur Jésus. Les petits-enfants sont instruits de certains dangers, particulièrement quant aux mauvaises doctrines. Les jeunes gens sont justement ceux qui résistent, qui tiennent ferme et qui remportent la victoire sur ces trois ennemis, les fils du géant. C'est à eux qu'il est dit n'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde, mais leur caractère, c'est qu'ils sont forts, qu'ils ont vaincu et qu'ils sont victorieux. De sorte que nous devons, par la grâce de Dieu, faire des progrès, ne jamais prétendre évidemment à l'état de père. Y a-t-il un père même parmi nous, dans les assemblées aujourd'hui? Dieu seul le sait. Mais que le Seigneur nous accorde à faire des progrès dans cette vie, dans cette marche de la foi. Il est toujours vrai que ce qui a vaincu le monde, la victoire qui a remporté la victoire sur le monde, c'est notre foi. Jean 5.
Rapprocher Jean 7, verset 33, comme je citais tout à l'heure, où le Seigneur annonce aux siens cette victoire qu'il remporte pour leur compte sur le monde, ayez bon courage, moi j'ai vaincu le monde. Et puis le verset qui vient d'être cité dans la première de Jean, au chapitre 5, c'est ici la victoire qui a vaincu le monde, savoir notre foi, verset 4, Jean 5, verset 4. Ce qui est né de Dieu est victorieux du monde, et c'est ici la victoire qui a vaincu le monde, savoir notre foi. Si nous rapprochons ces deux versets, le Seigneur qui a vaincu le monde, c'est lui qui a vaincu le monde. Mais pourquoi est-ce que notre foi est victorieuse? Parce qu'elle s'appuie sur la victoire du Seigneur. Elle la met à profit. Elle est victorieuse du monde parce que Christ a vaincu le monde. Elle se cache, pour ainsi dire, derrière le vainqueur. C'est à cette condition seulement que nous serons aussi vainqueurs du monde et de ces trois géants.
Bon, adverbe pleinement répété une fois ou deux, Paul en s'adressant à Timothée au chapitre 3, je lui dis au verset 10, mais toi, tu as pleinement compris ma doctrine. Timothée s'était efforcé de saisir par l'intelligence spirituelle, sans doute, par l'intelligence renouvelée, il s'était efforcé de saisir la doctrine que l'apôtre enseignait, ce qu'il avait entendu de la part de l'apôtre dans la foi et l'amour qui est dans le Christ Jésus, le bon dépôt, et qu'il devait communiquer à d'autres. Tu as pleinement compris ma doctrine. Dans le chapitre 4, Paul pourra dire en parlant de lui-même qu'il sert déjà de libation, qu'il a gardé la foi, et il invite son enfant Timothée à accomplir pleinement son service. Accomplis, au chapitre 4, verset 5, pleinement ton service. Donc, l'exhortation dans laquelle l'idée de plénitude est introduite, comme ce Caleb qui avait suivi pleinement l'Éternel. La chose est répétée plusieurs fois dans le livre des Nombres, dans le Deutéronome. C'est intéressant de voir aussi le caractère permanent, constant de cet homme de foi. Et ce que Moïse avait dit, c'était la parole de Dieu. Remarquons encore cela. Le Seigneur le confirmera dans l'Évangile selon Jean. Ils ont Moïse et les prophètes. Puis si vous croyez Moïse, eh bien, vous me croiriez aussi. Leur incrédulité à l'égard du Seigneur était en fait une incrédulité à l'égard des paroles de Moïse lui-même, puisque Moïse avait parlé de lui. Dans le chapitre 14 de Josué, où nous sommes arrivés, au verset 9, Moïse jura en ce jour-là. Et pour Caleb, c'est ce que l'Éternel avait dit, au verset 10. Depuis que l'Éternel a dit cette parole à Moïse, ce que Moïse avait juré, eh bien, pour Caleb, c'était la parole de Dieu. Et au verset 12, il confirmera, et maintenant, donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé en ce jour-là. L'Éternel a parlé, l'Éternel a dit, et Moïse a juré, pour Caleb, c'est une seule et même chose. Encore un mot peut-être, si on veut bien voir au chapitre 21, il y a pour nous quelque chose de très encourageant. La part de cet homme, la part de ce prince de la tribu de Juda, car en effet, a été rappelé, confirmé que cet étranger était devenu un prince dans la maison de Dieu, dans la famille de Dieu, dans la famille d'Israël et de la tribu royale. Est-ce que Ruth, la Moabite, ne deviendra pas elle-même l'épouse de Boaz, un prince de la maison de Dieu? Et elle deviendra précisément l'ancêtre, l'arrière-grand-mère de David. Et son nom se trouvera écrit dans la généalogie la plus prestigieuse qui soit. Matthieu 1, la généalogie de Jésus-Christ, fils d'Abraham, fils de David, l'objet de toutes les promesses de Dieu. Et bien dans cette lignée, nous allons trouver Rahab, la prostituée, et nous allons trouver Ruth, la Moabite. Ce prince de la tribu de Juda, Caleb, possède donc un héritage qu'il a demandé, qu'il a choisi, et bon, lieu de mort, mais d'une mort vaincue. La foi triomphe déjà maintenant, en espérance de la victoire emportée par le Seigneur sur la mort. Nous ne craignons plus la mort, et au contraire, Dieu la met à notre service, puisque nous l'employons pour mortifier nos membres qui sont sur la terre. Et remarquons dans ce chapitre 21 du livre de Josué, ce que nous lisons dans le chapitre 21 en relation avec la translation de cette partie essentielle de l'héritage de Caleb. À qui cette partie si magnifique, si merveilleuse sera-t-elle donnée? Bien, nous lisons verset 9 du chapitre 21. Et ils donnèrent de la tribu, ça y est, David de refuge, nous le savons, et ils donnèrent de la tribu des fils de Juda, la tribu des fils de Siméon, celle-ci, qu'on nomma par leur nom, et qui furent pour les fils d'Aaron, des familles des Kéatites, donc les fils de Lévi, car le premier lot fut pour eux, le lot le plus important, le meilleur lot fut pour eux. Et quel est ce lot? On leur donna Kiriath Arba, c'est Hébron. Donc, aux fils d'Aaron, famille des Kéatites, on donne le premier lot, le meilleur de tous, on leur donne Hébron. Eh bien, ce que Caleb a reçu comme prince de la tribu de Juda, Seigneur nous le donne. À la famille d'Aaron, ne sommes-nous pas les vrais fils d'Aaron? Dieu n'a fait de nous une sacrificature sainte, composée de pierres vivantes. Sacrificature, une sainte sacrificature constituée pour offrir des sacrifices spirituels. Bien, quel est le lot par excellence que Dieu nous a donné? C'est la mort. La mort de Christ.
La mort de Christ est le don le plus précieux que Dieu a fait au Fils d'Aaron, c'est-à-dire à l'Assemblée. Christ est mort pour l'Assemblée. Nous célébrerons éternellement l'amour de Christ dans sa manifestation la plus profonde, la plus riche, la plus insondable. Christ est mort pour l'Assemblée. Christ a aimé l'Assemblée, s'est livré lui-même pour elle. Eh bien, le don, le meilleur que Dieu fait, le premier don qu'il fait à la famille d'Aaron, c'est précisément Hébron, ce lieu de mort, ce lieu de triomphe pour la foi d'un Caleb dans ce sens fictif de Christ.
Rappelons cela encore à notre jeunesse ici. C'est pas parce qu'on a des parents chrétiens qu'on est un enfant de Dieu. Il faut passer soi-même par la nouvelle naissance. Cet enfant qui est ici doit y avoir passé pour son propos. La foi n'est pas héréditaire, mais il y a une limitation. Il y a dans la famille de la foi l'exemple donné qui porte des fruits. Et cela, c'est une exhortation pour nous parents à donner cet exemple et à montrer cette foi d'une manière pratique. Alors nous avons la famille de Caleb. Caleb, donc, nous l'avons vu dans le désert, au moment où il prend position tout seul, puis avec son duet, il est du côté de l'Éternel, il a visité le pays. Il en a vu tous les fruits merveilleux. Le pays lui fait envie. Et ensuite, on sent qu'il a pu en parler dans sa tente, raconter sa visite, et la raconter souvent comme font les vieillards. Pas seulement les vieillards, mais nous avons à parler beaucoup du pays dans nos maisons. De la promesse. Et voilà les enfants élevés dans sa proximité, son neveu Othniel et sa fille Aksa, qui ont entendu ces récits du pays de la promesse. Tout jeunes déjà, ces récits sont parvenus non seulement à leur mémoire, mais à leur cœur. Le père leur a fait envie, l'oncle leur a fait envie de posséder à leur tour ce pays de la promesse. Il y a eu ce saint désir de suivre les traces de l'oncle et du papa. Et quand le moment est venu, alors on voit la foi d'Othniel, on voit la foi d'Aksa qui se manifeste par un désir, un saint désir de posséder à leur tour une portion de ce pays. Et là, certainement, une puissante exhortation pour nous. Chemin faisant, de faire envie à ceux qui nous entourent et tout particulièrement à ceux de nos maisons, des choses que nous connaissons et que nous possédons. Nous avons lu ce matin que signifie pour vous ces choses. Quelle valeur a pour vous le pays? Vous nous en parlez, vous nous faites la lecture tous les jours, nous assistons à cette lecture de famille. Est-ce que cette lecture dont nous aimons à penser n'est négligée dans aucune de nos maisons? Est-ce que c'est une routine? Ou est-ce que c'est un besoin de la famille? On se penche ensemble sur la parole. On en lit quelques versets, chapitres, quelques davantage. Peu importe, ce qui compte, c'est que ce qu'on a lu soit rendu vivant, personnel, pratique, appliqué aux besoins. Faire envie du ciel à nos enfants. Et les fruits en seront portés plus tard.
Que les limitations étaient toujours de notre côté. Nous avons affaire à un Dieu qui donne, un Dieu d'amour, et se plaît à répondre aux besoins spirituels qui se manifestent dans les siècles. On voit cela d'une façon pratique, par exemple, pour l'agneau de la Pâque, et selon ce que chacun pouvait manger. L'agneau n'était jamais trop petit, on peut dire, pour la maison, pour la manne,
désert, eh bien, chacun en avait tout ce qu'il désirait de la main, toutes ces figures si précieuses de Christ. Ici, on voit Caleb qui prend possession de les rois, mais en fait, il ne s'en tient pas là, lui-même. Il aurait pu dire maintenant, voilà, j'ai tout ce que mon cœur désire, j'ai enfin cette portion du pays que j'ai désiré. Et il est bien dit aussi positivement au verset 15, du chapitre 15, et de là, il monta contre les habitants de Débir. Lui-même, il ne s'en tient pas, on peut dire, à ce qu'il avait déjà, n'est-ce pas? Et ça, dire que c'est un désir selon le cœur de Dieu. Il y a de bons désirs dans l'Écriture. Par exemple, il dit de désirer avec ardeur les dons spirituels plus grands, et surtout de prophétiser. S'il y a de désirs que le Seigneur ne peut pas recevoir, en nous, il y a aussi de saints désirs et de veilles. Que ces désirs qui sont à la gloire de Dieu soient augmentés dans nos cœurs, que nous ne restions pas à l'arrière. Et alors, tout simplement, on voit que dans ce nouveau combat, eh bien, Caleb va dire à qui frappera Kiriath Sefer et la prendra, je donnerai ma fille à Aksa pour femme. C'est une promesse. Et Othniel est là. Prendre cette fille. Et quelle joie pour le cœur de Caleb. Et quelle joie pour lui de lui donner sa fille Aksa pour femme, qui va bientôt manifester, nous le savons, qu'elle était une fille selon le cœur de Dieu. Elle avait dans son cœur la même foi que son père. Au chapitre 15 de Josué, le verset donc 13 à 19. Pratiquement donné une extension au début du livre des juges, avec une différence importante et intéressante. Au livre des juges, au chapitre 1er, les versets 8 à 15, nous racontent les mêmes circonstances. Mais dans le livre de Josué, c'est Caleb qui est en évidence. Et c'est la foi personnelle de cet homme de foi qui le pousse à conquérir le pays, sa part au moins, et à font rentrer en possession de ce que sa fidélité lui avait acquis, selon la promesse de Dieu. Dans le livre des juges, les mêmes circonstances sont rapportées, mais c'est le côté collectif qui est vu des fils de Juda. C'est pour ainsi dire la tribu de Juda tout entière qui allait à la conquête de cette partie-là du pays. Et en même temps, c'était bien Caleb qui était le bras de cette énergie, le moyen effectif du usé de Dieu, pour que cette partie-là du pays soit remontée. Toutefois, la fidélité de la tribu n'a pas été jusqu'au bout. Quelque chose qui nous manque, c'est au verset 19. L'Éternel fut avec Juda, il prit possession de la montagne, parce qu'Hébron et les possessions des Anakim étaient dans la montagne. Il ne dépossèda pas les habitants de la vallée, parce qu'ils avaient des chars de fer. Peut-être est-ce pour cela que la partie la meilleure du pays, comme M. Finet disait tout à l'heure, n'a pas été effectivement la possession de Caleb. Souvent, les chars de fer, les habitants du pays, nous empêchent pratiquement d'entrer en possession effective de ces choses que la grâce de Dieu voudrait nous donner.
De penser que Caleb a imprimé son caractère à la tribu de laquelle il est issu. Dans les juges, c'est une remarque importante, intéressante en effet. Ce qui est attribué à Caleb l'est partiellement, en tout cas, à la tribu. Bien, Paul dit à Timothée, sois le modèle des fidèles. Caleb ayant été un modèle, il sauve ceux qui lui appartiennent. Car en faisant ainsi, tu te sauves à toi-même et ceux qui t'écoutent, voilà Timothée. Donc, l'exemple d'un homme de foi, d'un homme de Dieu, est profitable à ceux au milieu desquels il évolue, à condition que ceux-ci soient dans les mêmes dispositions. Soit le modèle de fidèle, c'est ce que Caleb a été, et il imprime son caractère à sa tribu. Cette jeune femme On a souvent fait des allusions à ce cas dans des réunions de mariage notamment. Nous ne trouvons pas d'inconvénient, ce qu'il en soit ainsi évidemment, mais elle l'incita à demander à son père au verset 18. C'est une fille qui a évidemment, comme les filles que nous trouvons dans Néhémie, qui ont honoré la foi de leurs ancêtres, la foi des élus de Dieu. Elle travaille elle-même dans la reconstruction de la muraille. Certaines femmes sont nommées comme ici pour nous montrer l'énergie de la foi de cette jeune femme qui nous a donné un exemple. Et une femme peut beaucoup, une femme peut énormément. Ici, elle incite son mari à demander à son père un chant. Une femme peut inciter son mari à bien des choses. Dans l'épître à Tite, Paul nous montre un exemple d'incitation, un exemple heureux d'incitation qu'une femme peut produire dans le cœur de son mari. Tite 2, verset 3, il dit à Tite, de même que les femmes âgées soient, etc., comme il convient de saintes femmes. Et plus loin, enseignons de bonnes choses, afin qu'elles instruisent les jeunes femmes à aimer leur mari, à aimer leurs enfants, être sages, purs, etc. Bien, les jeunes femmes peuvent inciter leur mari, sont exhortées à aimer leur mari de la bonne manière, c'est-à-dire en plaçant le Seigneur au-dessus de tout. Les femmes âgées, conduites par le Seigneur, amenées à enseigner aux jeunes à aimer leur mari, mais l'aimer de la bonne manière, donnant au Seigneur la première place, se mettant de côté, n'intervenant pas, n'exigeant pas, ne prenant pas d'une place qui appartient au Seigneur, dans le cercle pourtant des affections légitimes. Cette femme, elle incite son mari, elle incite à une bonne chose, non pas se reposer, non pas jouir de la présence de sa femme, mais elle incite à rechercher une part meilleure, à demander à son père une bénédiction. Et les sources du haut et les sources du bas. Sources du haut, ce qui vient du ciel, la manne, ce que Dieu nous donne en grâce, comme jouissance pour nos cœurs, personne de Christ, ce qui est céleste, nos vrais biens qui sont dans les cieux. Et les sources du bas, les ressources que nous avons pour nous adresser en haut, la prière individuelle, collective. Cette femme, elle est très intelligente. Elle incite son mari. Un homme est ce que sa femme veut bien qu'il soit dans beaucoup de cas. Et elle va demander les sources du haut et les sources du bas. C'est un tout complet, ce qui vient du ciel. Et ce que nous attendons du ciel depuis la terre sur nos genoux, position de dépendance et d'obéissance tout à la fois.
Que va-t-il faire dans ce champ du pays de la promesse? Eh bien, nous avons vu en Josué 5 que ils ont mangé du vieux blé du pays, du blé poussé dans le pays de la promesse. Il nous parle d'un Christ céleste. Ce n'est pas un champ matériel, ce n'est pas des richesses terrestres que, si nous transposons sur le plan spirituel, nous avons à désirer. Mais avant tout, que le Seigneur nous donne ce champ-là. Et il y aura un champ ainsi pour ensemble le travailler et pour qu'il soit en bénédiction pour leur maison. Bien des exemples de femmes, mais très brièvement, j'aimerais justement prendre l'exemple de Proverbe 31, cette femme vertueuse en qui son mari se confie. Proverbe 31. Il nous est dit justement au verset 16 qu'elle pense à un champ et elle l'acquiert. Elle est diligente. Vous pouvez prendre verset par verset et voir bien des qualités qui sont résumées dans chaque verset. Il est dit, verset 13, qu'elle cherche de la laine et du lin et travaille de ses mains avec joie. Voilà une femme active, voilà une femme joyeuse à la maison. Elle est comme les navires d'un marchand, elle amène son pain de loin. Elle est organisée, elle est prévoyante. Elle se lève quand il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison et la tâche à ses servantes. Elle est donc courageuse et elle a le sens des responsabilités. Elle ceint, verset 17, ses reins de force et fortifie ses bras. Elle est énergique. Et il en est ainsi de tous les versets qui suivent. Elle ne craint pas, verset 21, la neige pour sa maison, car toute sa maison est vertue et vêtue d'écarlate. Elle se fait des tapis, le fin coton et la pourpre sont ses vêtements. Voilà une femme consciente de la dignité de sa maison et de ses privilèges, parce que c'est une maison dans laquelle Christ habite.
Moi, chez cet homme, Othniel, et chez sa femme, Aksa. Une chose remarquable, c'est que Othniel est mentionné pour la première fois dans le chapitre de Josué que nous considérons, Josué 14, dans le chapitre 1er du livre des Juges, en rapport avec la possession de l'héritage de Juda. Mais ça n'est pas la seule mention qui ne soit faite de lui. Et on le trouve comme le premier des 12 juges. Nous savons que l'histoire des juges a été caractérisée par des réveils successifs qui ont été rendus nécessaires en grâce de la part de Dieu par l'état de défaillance du peuple. Et lorsque le peuple a été livré d'abord à ses ennemis intérieurs, avant d'être livré comme plus tard à des ennemis de l'extérieur, eh bien, Dieu avait pitié de son peuple, son âme était en peine de la misère d'Israël, et il envoyait des juges pour délivrer le peuple. Le premier des 12 juges qui a été envoyé, c'est Othniel, et les caractères qui nous sont donnés d'Othniel ne laissent aucun doute sur le fait que c'est la même personne que celle qui nous est mentionnée en Josué 14. Et l'ordre moral est très clair. Il faut d'abord être fidèle dans les choses qui sont placées devant nous, de la part du Seigneur Jésus, dans l'ordre habituel de notre vie courante. Et ensuite, on peut alors être à la disposition du Seigneur pour des choses plus grandes. Othniel a été fidèle pour acquérir cette part par la foi, et c'est à la suite de l'appel de Caleb qu'il a donc répondu à cet appel. Dieu avait discerné dans cet homme quelque chose qu'il y avait pour lui et qu'il rendait propre pour accomplir un service qui serait utile à tout le peuple. On a beaucoup parlé de David, ce si merveilleux exemple de Christ, mais méditons sur le fait que David, avant de remporter dans le chapitre 17 la victoire sur Goliath, pour délivrer l'ensemble du peuple, cette vallée dans laquelle il est descendu pour combattre le géant Goliath, avait auparavant, sans que personne ne le sache, remporté la victoire sur le lion et l'ours. Et ça n'était simplement que ce que la fidélité à ce que Dieu désirait lui demandait de faire. Personne n'en avait rien su. Il l'a avoué à Saül parce que l'occasion s'en présentait. Il ne s'en était certainement pas vanté auprès de ses frères, et n'a guère trouvé de compréhension à l'égard de son frère aîné en particulier, qu'il considérait comme un orgueilleux bien à tort. Ayons à cœur d'abord d'être fidèles dans les petites choses, dans les choses qui sont autour de nous, dans notre vie de famille. Et l'exemple de cet homme et de cette femme est certainement un exemple à méditer. Et le Seigneur saura, s'il le désire, nous employer à son service pour des choses plus importantes. Un frère qui est avec le Seigneur maintenant, qui a pendant très longtemps écrit un périodique qui a été utile à beaucoup de personnes en anglais, disait à quelqu'un, un jeune frère qui s'exprimait auprès de lui, « Oh, je voudrais annoncer l'évangile en Afrique et ailleurs. » C'est un frère d'ailleurs qui avait été en Afrique à l'époque. Il lui disait, « Eh bien, commencez par annoncer l'évangile autour de vous. Rendons témoignage dans notre maison. Rendons témoignage dans notre travail. Rendons témoignage dans notre sphère habituelle d'activité. Et le Seigneur saura bien nous confier quelque chose d'autre lorsque nous aurons été fidèles dans les petites choses de la vie. »
cela, nous pouvons penser. Nous pouvons aller au cimetière, nous sommes ensemble héritiers de la grâce de la vie, ensemble héritiers. 1 Pierre 3, verset 7. Partage une même foi et un même amour pour le pays. Voilà qui soude plus que n'importe quoi le foyer chrétien. Il n'est même pas concevable autrement. Alors, sans doute un rappel pour nos jeunes frères, jeunes sœurs, qui peuvent penser au mariage. Il n'y a pas d'autre chemin que celui-là. Un conjoint qui partage cette foi de pareil prix, donc il est aussi question dans les épîtres de Pierre, avec qui on peut s'entretenir du pays, avec qui on peut combattre ensemble pour sa possession. Et là, on rappelle aussi cette parole d'un de nos devanciers, Dieu ne trouve jamais la foi trop hardie. Axa aurait pu penser bien, voilà, la trouver bien audacieuse, réclamant quelque chose de plus. Ah, elle a déjà reçu un chant, que va-t-elle encore revendiquer? Mais c'est une bonne revendication. Ce n'est pas le mécontentement ni l'insatisfaction de ce qui a été donné, mais c'est le désir d'en posséder davantage de ce merveilleux pays. Et nous ne sommes jamais trop hardis pour réclamer les bénédictions célestes et les demander en famille, mari et femme, ensemble, à genoux, demander de grandes choses à notre Dieu.
Tina,
Priscilla,
dans l'histoire, les Cévennes, c'était 6 fois dans le Nouveau Testament, 3 fois le mari cité en premier lieu, mais 3 fois là, l'épouse cité en premier lieu, dans les choses qui concernent le dévouement, l'affection, le désintéressement, l'engagement. Il semble bien que Priscilla avait le pas sur son mari. Elle n'enseignait pas, bien sûr, lorsqu'il s'agit de choses officielles, c'est Aquila qui c'était le premier. Mais s'il s'agit d'exposer son propre, de donner sa vie, même s'il le fallait pour l'apôtre, et pour le Seigneur dont il était le représentant, eh bien, c'est elle qui c'était la première. Une femme n'est pas inférieure dans son groupe. Aquila, Priscilla, et Priscilla et Aquila, 3 fois la, 3 fois le mari et 3 fois l'épouse. Ce n'est pas sans raison que Dieu inverse l'ordre.
Il est en train de se tromper que si un chrétien est avide du monde, il est dans une condition affreuse. Mais si Aksa nous est présenté ici comme une femme avide, eh bien elle est avide bénédiction du pays de la promesse. Et cela était extrêmement précieux au cœur de Dieu. Pensant à Othniel, ce que disait notre frère tout à l'heure, on peut dire qu'il a acquis un bon degré. En prenant l'expression que nous trouvons l'épître à Timothée concernant les serviteurs. Il a acquis un bon degré et alors le Seigneur lui a confié, on peut dire, une tâche autrement importante sur le peuple. Dans chapitre 3, n'est-ce pas? Au chapitre 3, quand l'Esprit de l'Éternel, verset 10, fut sur lui, il jugea Israël, et voyons que Dieu se sert de lui, parce qu'il livre dans sa main ce roi d'Aram de Syrie, n'est-ce pas? Et sa main fut forte contre Cushan Rishathaïm. Et surtout, retenons que le pays fut en repos 40 ans. Voilà, on peut dire, là aussi, cette réelle bénédiction d'un homme de foi qui, s'appuyant sur Dieu, conduit par l'Esprit de Dieu, peut être en bénédiction, on peut dire, à tout le peuple de Dieu. Il n'en va pas autrement aujourd'hui pour celui qui se confie pleinement dans le Seigneur.
Un dernier détail, peut-on.
Que Dieu nous le donne. Que peut-on penser de la fin du verset 18? Elle descendit de dessus là. La parole de Dieu s'expliquant par elle-même dans le livre des juges précisément, nous avons un homme qui avait 30 fils. Et et il était très honoré. Ses fils montaient sur 30 ânes. L'âne, l'ânon, n'était pas un animal inférieur dans ces jours-là. C'était la monture de quelqu'un qui jouissait d'une certaine notoriété, d'une autorité. Bien, puisque Dieu nous donne ce détail, elle descendit de dessus l'âne. Elle descend d'une place d'élévation, n'est-ce pas la modestie dont Pierre nous parle, ce qui sied à une sainte femme qui craint Dieu. Elle abandonne toute affirmation d'elle-même. Elle descend de dessus l'âne, elle prend la vraie place qui lui convient devant son Père pour réclamer une bénédiction. Car elle sait bien que Dieu n'a rien pour la chair, rien pour ce qui exalte la chair, ni pour la chair occupée d'elle-même. Elle descend de dessus l'âne, elle prend une position toute d'humilité.
Citer deux autres exemples semblables, et je pense que ce qui a été dit pour Aksa, on peut le dire aussi pour Abigail, qui descend de sa monture dans une humilité, elle la richissime, devant un David qui, à vue humaine, était un pauvre, mais elle avait la foi, elle avait l'intelligence des choses. Elle savait que son âme était liée au faisceau des vivants et qu'il combattait les combats de l'éternel. Voilà un second exemple, et nous avons un troisième. C'est Rebecca. Rebecca qui, elle aussi, descend de sa monture avec un sentiment d'unité et aussi de déférence pour son Seigneur, ça appellera son Seigneur. L'ami de quoi, là, aussi.
De leurs biens. Ces femmes qui possédaient des biens les mettaient au pied du Seigneur. Plusieurs femmes dans Luc 8 et elles jouaient une certaine notoriété sur le plan humain, elles l'assistaient de leurs biens. Ou à la note, elles le servaient de leurs biens. Se mettant de côté pour le servir, Louis.